La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir. Eh bien, nous commençons d'une manière étonnante. Vous vous êtes peut-être dit, c'est de l'Offenbach dans le texte. Bon, pom, 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 pom.
Alors en fait, c'est à la fois du jazz et pas du jazz. C'est un disque antique. Inutile de vous dire que nous avons aussi dans notre fonds de documentation des disques antiques, enregistrés avant la guerre de 14, vraisemblablement, et qui comportent toutes les influences tirées de la musique européenne qui vont déteindre sur le trombone. Car naturellement, vous avez deviné que notre émission d'aujourd'hui est consacrée au trombone. Et si j'étais en train de faire une conférence, je ferais remarquer que le pam se retrouve exactement dans un des premiers disques de King Oliver qui s'appelle Snake Rag. Ah.
Quelle culture, mes amis.
Vous en direz. Eh bien, nous allons nous promener à travers le trombone de jazz. Et naturellement, nous ne négligerons pas les grands fondateurs, puisque, comme chacun sait, c'est là que les choses naissent, c'est là que les choses prennent vie, et c'est là que leur sang, leur sève, va demeurer et servir aux générations futures. C'est bien dit, quand même, ça.
Oh là là, j'admire.
Et on ne peut pas ne pas commencer par Kidori.
Évidemment. Kidori, c'est le plus simple et en même temps, peut-être le plus jazz.
Ça, vous apprécierez parce que notre émission ne comporte pas que Kidori. En tout cas, c'est le trombone Nouvelle-Orléans par excellence avec un style qu'on a appelé Taygate. Taygate, nous allons y revenir après le disque qui vient et qui est une sorte de concerto pour trombone enregistré par le fameux Hot Five de Louis Armstrong et ça s'appelle
Horry's Creole Trombone.
On ne saurait mieux dire.
Thank you.
Alors, le Tailgate.
Ah oui, le Tailgate, c'est spécial. On vous a souvent dit dans cette émission que les premiers orchestres Nouvelle-Orléans avaient la particularité de très souvent ne pas jouer dans des salles, mais de jouer dehors. Et comment dehors ? Sur des camions qui les promenaient dans les rues.
Oui, parce que c'est comme ça qu'ils se faisaient de la publicité pour leur production de la semaine, du week-end ou du soir.
Ce qui permettait d'ailleurs, si deux camions se rencontraient, de faire ce qu'on appelait un contest.
Eh oui, parce que là, les malins qui suivaient tout ça, ils enchaînaient un camion à l'autre jusqu'à ce que le vaincu cède la place et arrête de jouer piteusement. C'était terrible, ces combats, parce qu'en plus, c'était un petit monde, les musiciens. Hein.
Alors, on en revient à nos camions. Il y avait quelqu'un qui avait quand même un problème d'être sur cette plateforme de camion, parce que bien sûr, il y avait une plateforme et des barrières. Ben, c'était le trombone, parce que la coulisse, effectivement, c'est très allongé, hein.
Ah, c'est sûr. D'ailleurs, si nos auditeurs pouvaient te voir faire ce geste, ils comprendraient encore plus vite.
Ample, ample et tout. Bref, ils se sont aperçus que finalement, il fallait absolument donner de l'espace aux trombonistes. Et donc, ils rabattaient la barrière arrière du camion. Et cette barrière arrière s'appelait le Tailgate.
Ah oui, c'est la porte arrière. Hein. Voilà, donc on a appelé ce style de trombone plein de glissando et de ponctuation le style Tailgate à cause de ça. Mais à la Nouvelle-Orléans, il y avait une autre façon de jouer qui venait d'une autre approche culturelle de l'instrument, finalement. Parce que, tu sais, le jazz, c'est un mélange de gens de milieux différents qui avaient tous été mis de côté parce qu'ils avaient du sang noir, plus ou moins. Il y avait des pauvres et des riches, puis ça s'est complètement entremêlé. Et ce style-là, il est quand même tout à fait différent. Et un des trombones qui illustre cette façon de jouer qui vient plus en contrepoint de la trompette qu'en glissando, mais qui est aussi Nouvelle-Orléans que l'autre style, c'est Honoré Dutray.
J'ai pas besoin de vous dire qu'il est créole, hein, parce que Honoré Dutray, on peut pas faire plus français, hein, comme nom.
Ça, c'est sûr. Honoré Dutray est devenu le tromboniste du fameux King Oliver Creole Jazz Band, et il a enregistré aussi avec le clarinettiste de cet orchestre, Johnny Dodds, et voilà ce que ça donne. Vous pourrez écouter un morceau qui s'appelle...
Comme c'est joli, My Little Isabelle.
Et dans ce morceau, le trompettiste Natty Dominic est d'une école de trompette complètement différente de celle de Louis Armstrong. Il n'y a pas eu de postérité à cette école-là. Elle venait du fameux Freddie Keppard. Ça, c'est pour les érudits que je dis ça.
Oh oui,
de temps
oui.
En temps, de temps en temps.
Il se fait un petit plaisir, là. Hein.
Là, il faut écouter le trombone. Honoré Dutray. Thank you.
avec un autre trombone, on va avoir un exemple type de ce que c'est que l'improvisation jazz. Figurez-vous que cet homme-là faisait un enregistrement et qu'il y a eu 3 prises, comme ça arrive souvent.
Oui, mais là, chose rare, on a gardé les 3.
Oui.
Parce qu'à cette époque d'enregistrement, quand on voulait écouter ce qu'on avait fait, le disque était foutu. Donc on envoyait à la fabrication des disques qu'on n'a pas réécoutés. Mais généralement, on n'envoyait qu'un seul exemplaire, parce que ça coûtait très cher. Et là, bizarrement, je ne sais pas quel ingénieur ou superviseur éclairé a gardé les 3 versions.
Et là, on s'aperçoit de la variété, de la capacité d'improvisation géniale, parce qu'il n'y a pas une improvisation qui ressemble à l'autre.
Et ce qui est très curieux, c'est l'approche de ce musicien, dont on peut donner le nom. Il s'agit de Jimmy Harrison. Jimmy Harrison est considéré par beaucoup de gens comme le plus grand trombone de l'histoire du jazz. Il n'a jamais enregistré sous son nom. Là, on le trouve dans l'orchestre de Fletcher Henderson. Mais c'est lui qui a, à partir d'influence de Louis Armstrong, inventé le langage trombonistique du jazz. Et on va la retrouver, cette influence, jusqu'à la fin de notre émission.
Donc voici St. Louis Shuffle avec les 3 versions improvisées.
Alors, quand vous allez entendre arriver le trombone, vous aurez un petit blanc. Le deuxième solo, vous pourrez entendre par rapport au premier, un nouveau petit blanc. Et la troisième mouture de ce solo, qui sera suivie de la fin du disque, naturellement.
Donc, document rare.
Document rare et montage inédit. St. Louis Shuffle. Thank you. C'est fou hein, ce qui peut se passer en juste 3 minutes, hein, c'est à peine croyable. Et cette influence de Jimmy Harrison, nous allons la retrouver tout au long de l'émission, sauf pour le musicien qui suit, qui lui vient d'un autre horizon et dont le style était déjà formé avant de rencontrer Jimmy Harrison dans l'orchestre de Fletcher Henderson. Il s'appelait Charles Green, dit Big Charlie Green, parce qu'il était d'une grande taille et d'une grande épaisseur. T'es un costaud, hein.
Son style de trombone, c'est un peu le décalque de son origine. Parce qu'il vient d'une ville du Nebraska qui s'appelle Omaha. Alors Omaha, c'est devenu célèbre pendant la guerre parce qu'il y avait le débarquement à Omaha Beach.
Oui, ça a servi de nom de code, c'est assez curieux.
C'est assez curieux, mais c'est tout à fait normal parce que c'est une sorte de ville à la fois pleine de monde et quand même complètement perdu au milieu des champs, des développements vers l'ouest. Et c'était une ville très violente.
Oui, c'est une ville champignon poussée à partir de nulle part, simplement parce qu'elle était géographiquement bien placée pour aller plus loin. Et c'est de là qu'est parti le fameux chemin de fer transcontinental vers l'ouest. Le plus grand tronçon est parti de là. Et c'est vrai que c'est une ville pleine de communautarisme qui illustre très bien les dangers du communautarisme d'ailleurs.
Oui.
Je le dis en passant.
Et effectivement, les Noirs, au milieu de la communauté des Italiens,
Des Allemands, des Irlandais,
voilà, et ils étaient la communauté la moins bien perçue, n'est-ce pas? Et il y avait beaucoup de violence.
Et même des émeutes raciales qui sont restées célèbres au début du siècle, à l'époque où Big Charlie Green est né.
Alors son style s'en ressent, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui joue du trombone avec énormément d'énergie, un style un peu rugueux.
C'est très rugueux. Oui, c'est très rugueux, c'est très simple également. Des gens le disent rustique, mais c'est un enfant des villes, donc il n'est pas rustique. C'est un des meilleurs exemples d'un style de trombone primitif, en fait. Et alors, ça a tout à fait tilté avec les chanteuses de blues. Les chanteuses de blues adoraient se faire accompagner par Big Charlie Green.
Comme Bessie Smith.
Et justement, Bessie Smith a tenu à lui dédier un morceau qui s'appelle Trombone Charlie, hein, Trombone Charlie. Alors c'est pas un blues, mais elle le décrit pendant qu'il joue, c'est très amusant, et elle lui parle. C'est un disque très célèbre, où on entend magnifiquement le trombone, le voilà.
He grunts and groans, he moans just like a cow. Nobody else can do his stuff, oh, he won't teach him how. Oh, Charlie, blow that thing, that's like trombone. Make it talk, make it sing. Get that tone. If Gable knowed how you could blow, he'd let you lead his band, I know. Oh, Charlie, blow that thing, play that sly trombone. Oh, Charlie, do you know you blow the horn? Yes, I swing to and fro when you carry on. You ain't seen Seth shaking his leg when that horn is to your lips. Oh, Charlie, blow that thing, that's like trombone. Thank you. make a king get out of his throne, and he would break a leg, I know, doing the chasm while you blow.
Et maintenant, nous retournons à l'influence de Jim Harrison et d'ailleurs à son plus proche disciple. Après Charlie Green, qui avait commencé sa carrière de musicien sous les chapiteaux des cirques, et c'est vrai, hein, pour des parades et des choses comme ça, et des...
Et des manifestations assez populaires, genre carnaval.
Oui, oui, il a fait... Il était connu pour avoir fait dans sa jeunesse beaucoup d'animations de carnaval. C'est,
oui, mais c'est... on ne lui demandait pas de mettre un nez rouge, hein, par contre.
Ah non, non, c'est depuis, c'était pas le genre. Hein. Alors voici maintenant, donc, Dickie Wells. Alors Dickie Wells, lui, il a commencé sa carrière comme imitateur de voix avec un trombone. Tout jeune, il avait inventé une sorte de sourdine avec un bocal de poivre qu'il avait travaillé. De telle sorte qu'il arrivait à tout faire avec, et il parlait, il toussait, et même il rotait entre nous. Hein. Il faisait tout avec. Alors c'est comme ça qu'il était connu comme musicien, puis après il est devenu plus franchement la vraie musique.
Mais je vais vous dire honnêtement, il sait faire autre chose. Hein.
Oui, oui, il sait faire autre chose, vous allez pouvoir l'entendre. C'est aussi un très bon écrivain, il a écrit un bouquin formidable sur la vie du jazz qui s'appelle The Night People, et aucun de ses fichus éditeurs français n'a jamais été capable d'en publier la traduction. Ça, c'est vraiment dommage.
Là, on va avoir un disque un peu particulier, puisque normalement le trombone, en temps ordinaire, hein, c'est vraiment un instrument d'accompagnement. Et on va entendre Dickie Wells qui va jouer seul tout le morceau. C'est-à-dire que là, il n'accompagne personne.
C'est la première fois que ça se faisait, à ma connaissance. C'est lors d'un voyage que Dickie Wells a fait en France. Et naturellement, Hugues Panassier a été écouté, a été très intéressé. Et s'est dit, voilà un type qui peut vraiment tenir l'intérêt tout le long d'une face. Et donc, il a eu l'idée de faire enregistrer plusieurs morceaux avec orchestre, mais en réservant deux plages, dont voici l'une, pour Dickie Wells tout seul avec la rythmique. À cette époque-là, le minutage était extrêmement impératif, puisque c'était 3 minutes 20, pas plus. Donc, il était convenu que Dickie Wells recevait un petit signal pour dire que ça allait être fini et qu'il veuille bien conclure son propos. Et vers la fin du disque, vous entendrez le son qui baisse un petit peu, car là, c'est le moment où Dickie Wells s'est retourné pour voir où il en est. C'est la première prise, hein, il n'y en a pas eu de deuxième. C'est le premier jet. Et ce morceau s'appelle Naturellement, puisque c'est un blues. Et
évidemment, Dickie Wells, blues. Thank you.
Voici maintenant, sous la même influence, mais avec un tempérament totalement différent, voici un violent.
Et oui, il n'a pas du tout le même caractère que le précédent. Sa caractéristique quand même, c'est que comme beaucoup de surdoués, il était hypersensitif.
On disait de lui qu'il était né avec un trombone au bout du nez. En fait, je crois qu'il était ombrageux. En tout cas, au point de vue trombone, c'était un sacré tempérament. Lui, c'est le côté... rentre dedans. Hein. C'est le premier des trombonistes de jazz, d'ailleurs, qui ait développé à ce point cet aspect des choses. Là, nous allons l'entendre lorsqu'il était membre de l'orchestre de Louis Russell, qui était l'orchestre qui accompagnait Louis Armstrong. C'était son orchestre attitré, formé de beaucoup de monde qui venait de la Nouvelle-Orléans, d'ailleurs. Et on pourra profiter d'un jeu de contrebasse fabuleux de ce côté-là. Et là, c'est le fameux St. Louis Blues que Louis Armstrong a enregistré en le chantant. Mais alors, ce qui va nous intéresser dans ce morceau au point de vue trombone, ce sont les deux interventions de Jesse Higginbotham dedans, qui sont vraiment, alors... l'homme pas commode, hein. Vraiment pas. Vraiment pas.
Laisse-moi introduire, parce que pour le reste, je ne sais pas.
Alors, vas-y.
Et maintenant, faisons un saut dans le monde ellingtonien. Le trombone, là, il a une sorte de petit créneau particulier, c'est le jeu wah-wah. Wah-wah, ça vient du style jungle. Vous savez, ça a été la mode à l'époque. On en a déjà beaucoup parlé,
le Harlem Renaissance, le retour à l'Afrique,
etc.
Le Cotton Club, et tout ça. Et c'est là que les cuivres, et là ce sera le trombone, armé d'un simple débouchévier.
Le débouchévier, il ne sert pas à déboucher les éviers, attention. Hein,
non, d'ailleurs, on a enlevé le manche. Hein.
On le met devant le trombone, on l'enlève, on le remet, et ça fait wah, 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 wah.
Voilà, on malaxe le son et on en fait des cris d'animaux, des ambiances inquiétantes, la voix humaine, tout ce qu'on veut, et Tricky Sam, qui s'appelait en réalité Joe Nanton, mais son surnom de Sam l'Astucieux.
Tricky, ça veut dire le petit malin.
Ouais, le petit malin. Il savait faire ça très très bien, comme vous allez l'entendre, le morceau. C'est un vieux morceau d'ailleurs. C'est une chanson country en fait, au départ. Ça s'appelle « Sous l'ombre du vieux pommier ».
Et maintenant, pour compléter, un petit passage intéressant de l'orchestre de Ellington, c'est une section de trombone. Là, comme dans les orchestres classiques, parce que ça, c'est la culture aussi du Duke Ellington.
Il a fait jouer sa section de trombone en véritable section. Mais là, vraiment, il y a une dimension de plus. Et je crois que c'est lui qui a écrit le premier trio de trombone dans le jazz arrangé. Et ce trio est absolument magnifique. Nous allons vous le passer. C'est le début du morceau. Après, on poursuivra pas. Malheureusement, c'est très beau. Mais bon, le temps nous est compté, hélas.
N'est-ce pas.
Juste le début, ça vaut vraiment la peine. Ça s'appelle
Slippery Horn.
Sachez simplement que slippery, ça veut dire glissant. Voilà. D'ailleurs, quand il y a du verglas sur les trottoirs, beware, slippery sidewalk.
Thank you.
Et voici maintenant un jeune Turc. Le jeune Turc s'appelle Trummy Young. En réalité, il vient de Washington.
Oui, il n'est pas du tout turc, hein. C'est simplement une expression pour dire c'est un jeune, quand il arrive, il explose tout.
Il a vraiment eu énormément de retentissement. Et tout cela dans le droit fil d'une certaine tradition, puisque Trummy Young tenait son embouchure de Jimmy Harrison lui-même. Il a énormément travaillé ce style-là, puis il l'a développé selon son tempérament. C'est Buster Cooper qui m'a raconté ça. C'est un autre trombone qu'on va retrouver plus loin dans l'émission, et qui, lui, tenait sa propre embouchure de Trummy Young lui-même. Vous voyez que... Il y a de la filiation dans tout ça.
Ça se suit, tous ces gens-là. Alors, il est intéressant parce qu'il a été découvert par Armstrong, pas du tout ni à la Nouvelle-Orléans, ni à New York, non.
À Honolulu, parce que après avoir eu énormément de succès dans l'époque, dans la grande époque des big bands, eh bien, finalement, Trummy Young s'est dit, ce serait aussi bien d'elle et vivre à Hawaï, au soleil, tranquillement. Il est allé jouer, il y a un gros marché de musique à Hawaï, parce qu'il y a beaucoup de soldats, etc.
Oui, il y avait
américains, c'est une colonie américaine. Bref, il y avait du travail, et donc le père Trummy, il est parti s'installer là-bas, puis Armstrong l'a redécouvert, et l'a pris avec lui, il est resté là. Alter ego d'Armstrong très longtemps. Pour en venir à ses débuts explosifs, le disque qu'il a fait connaître, où il joue et où il chante, et où il joue un solo que tout le monde connaît par cœur. Très très emblématique ce solo. Le morceau s'appelle
Margie.
Et ça se passe dans l'orchestre de Jimmy Lunsford, dont Trummy Young fut un des plus beaux fleurons.
Margie, I'm always thinking of you, Margie. I'll tell the world I love you, don't forget your promise to me. I have bought a got a house and ring and everything for my whole bubble, Margie. My inspiration day that's never blue. After all said, done, baby, you the only one that did it.
Dans tous ces musiciens, il y en a certains qu'on a connus, et même bien connus. On a connu Dickie Wells, on a connu Trummy Young, et celui qui vient, on l'a encore mieux connu, il s'agit de Vic Dickinson. Vic Dickinson qui est venu en France à plusieurs reprises, notamment avec un très bon orchestre qui s'appelait les Saints and Sinners.
ce que veut dire les saints et les pécheurs.
Oui, c'est un orchestre qui s'appelait comme ça. Très bon orchestre avec de très grands musiciens. Et ce Vic Dickenson, il a très bien profité des influences de Louis Armstrong et de Jimmy Harrison, mais il y a ajouté une vraiment forte personnalité. En plus, comme Jimmy Harrison, il a un sens exceptionnel du discours musical. C'est un narrateur. Là, nous allons l'entendre avec l'orchestre de Count Basie, auquel il a appartenu. Et il est aux côtés de Dickie Wells, qu'on a entendu tout à l'heure. Et là, il y a quand même une différence de style intéressante, parce qu'ils jouent à la file l'un de l'autre. Vous entendrez d'abord Dickie Wells, et ensuite Vic Dickenson, deux manières d'improviser tout à fait différentes. Intéressant aussi pour les improvisateurs, ça. Et le morceau s'appelle...
I never knew.
Comment ? Je l'ai jamais su.
Oui, c'est quand deux femmes font des cancans, ou deux hommes, naturellement.
Bon.
Eh bien, il y en a un qui dit à l'autre, comment ? J'ai jamais su ça.
Nous entrons maintenant dans la postérité de Tommy Young, en fait, avec Benny Green.
Oui, ça ne veut pas dire que c'est leur père. Hein.
Non.
Ça veut simplement dire que père spirituel.
Ouais, père spirituel, exactement. Ce Benny Green, il est de Chicago, né à Chicago. Il a grandi à Chicago, appris la musique à Chicago. C'est une petite vedette du trombone très jeune. Et il entre, toujours à Chicago, à 19 ans, dans le big band de Earl Hines, qui n'était pas le premier venu. Donc, c'est un musicien brillant. Il a été très apprécié aussi dans certaines jam sessions enregistrées. Et là, nous le trouvons, justement, dans un de ces enregistrements-là, où les musiciens étaient sous la direction de Joe Jones. Là, nous avons choisi un morceau qui s'appelle « Shoe Shine Boy ».
Ce qui veut dire « le garçon aux souliers brillants ». Alors, on a deux solutions. Ou il est riche, quasiment célèbre, et il porte des souliers vernis super. Ou alors... au contraire, c'est un petit cireur de souliers qui en y en avait partout, qui se vantait, et à juste titre souvent, de faire des souliers absolument lumineux.
Moi, j'opte pour la seconde hypothèse, tu sais pourquoi ? Parce que les Shoe Shine Boy de Harlem étaient célèbres pour le rythme avec lequel ils faisaient claquer les chiffons sur les chaussures.
Ah oui.
Et qui rappelait celui des tap dancers. T'es désenragé, ces gens-là. l'influence de Trem Young, à l'autre bout des tempéraments, nous allons le dire comme ça, il y a Buster Cooper. Tu sais que ça veut dire phénomène, Buster.
Oui, parce que je crois savoir que le bébé Buster, lorsqu'il est arrivé, pesait, écoutez bien mesdames, 7 kilos. It was a monster.
C'est ce que Buster m'a raconté quand je lui ai posé la question. Nous étions très amis avec Buster Cooper et il a participé à une séance d'enregistrement que nous avions organisée pour un autre ami, Ellingtonien également, qui s'appelait Cat Anderson. Cette séance avait mélangé des musiciens de Claude Bolling et de Duke Ellington. Et j'avais insisté lourdement auprès de Cat pour qu'il y ait un morceau consacré à Buster Cooper, tromboniste qui m'avait vraiment tapé dans l'oreille depuis quelque temps. Puis je voyais se dérouler la séance et j'insistais toujours lourdement. Alors Cat a fini par dire « Attendez ». Et puis à ce moment-là, il a sorti un arrangement et ça a été le morceau que vous allez entendre qui s'appelle « Trombone Buster ». Pour enregistrer ce morceau, les ingénieurs du son ont eu énormément de mal à régler leur micro, étant donné le contraste, le choc sonore dans le jeu de Buster Cooper qu'ils étaient presque dans l'impossibilité d'attraper.
Ils pouvaient aller dans une sonorité étouffée, très douce, et puis tout d'un coup, paf ! C'était très violent.
Ah oui, pianissimo, fortissimo.
Voilà.
Et les ingénieurs, ils ont perdu leur latin.
Aïe, aïe, aïe.
À quelques temps de là, parce qu'il faut savoir que Ellington n'aimait pas du tout que ses musiciens enregistrent comme ça en douce. C'était un peu le cas. Hein.
Oui, il trouvait que ça les fatiguait beaucoup, que de toute façon, il estimait, parce que c'était un peu le prince, hein, Ellington, le duke.
Bah, c'était ses employés.
Il estimait qu'ils perdaient leur énergie à faire des choses qui n'étaient pas intéressantes et que ça nuisait à l'orchestre.
Il n'aimait pas bien.
Et après cette séance, Buster a été convoqué par Duke. Ils n'aimaient pas beaucoup ça, les musiciens. Duke ne dit pas un mot, va à son électrophone, c'était ça à l'époque, fait écouter Buster, se rend compte que c'est son solo qui est là, qui passe devant les oreilles du maître. Et Ellington lui dit « Vous étiez très en forme, Buster. Eh bien, puisque c'est comme ça, ben, vous le jouerez tous les soirs et toute l'année. » Quel tonus, quel swing! Mais au fond, La punition, si on peut appeler ça une punition, a été bien légère parce que Buster Cooper déchaînait les salles quand il faisait son solo.
Je dois dire que le moment de ce morceau à l'enregistrement, c'est mémorable, mémorable. Là, quand même, les musiciens qui étaient autour, surtout que l'arrangement va très vite, les musiciens français qui étaient là, qui participaient à cette séance, étaient très impressionnés. Et pourtant, c'était des vieilles bêtes, comme celui que nous allons entendre, qui était l'autre trombone de la séance, mais qu'on n'entend pas dans ce morceau, naturellement. Très bon trombone français, de la bonne école.
Tu veux parler de Claude Gousset ?
Claude Gousset. Claude Gousset, d'abord, c'était quelqu'un de très gentil.
Ça ne gâte rien. Hein.
Ah voilà, et très gentil. Toujours d'accord pour raconter une bonne histoire ou raconter un bon souvenir. Prenons plutôt la vie du bon côté. Je garde un très bon souvenir de Claude Gousset. Et là, nous allons l'entendre dans un disque d'un autre musicien du même tonneau qui s'appelait Michel Atenou, qui joue du saxo, soprano et alto, avec un jeune débutant qui a fait beaucoup de chemin depuis qui s'appelle Patrick Artero à la trompette. Et là, Claude Gousset intervient dans un morceau qui s'appelle « Empty Fob », composé, arrangé par Claude Gousset lui-même, qui apparaît en soliste dans toute sa splendeur vigoureuse. Comme vous pourrez entendre, l'école Jimmy Harrison, Tremmy Young, tout cet immense courant dominant du trombone jazz, eh bien, il n'a pas été perdu pour l'ami Claude Gousset. Et naturellement, le titre « Empty Fob », ça veut dire « vide Gousset » ou « Gousset vide », comme vous voudrez.
C'était la planèse du jazz.
À la planèse prochaine.